Hey guys, salam alaikum, c'est Ibrahim. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Hashtag With Love, le podcast qui parle de la vie à deux.
La dernière dans notre show. Avec tais-toi. Hashtag With Love, le podcast.
Ça, c'est pas qui derrière, c'est pas moi.
Hashtag With Love.
Podcast qui parle de la vie de mal. De la vie à deux, mais pas que.
Voilà. Le podcast qui parle de la vie à deux, mais pas que.
Alors, cet épisode sera assez spécial dans la mesure où je serai seul, malheureusement. Jenna ne se sent pas très bien, elle n'est pas au mieux de sa forme. Aujourd'hui, elle ne pourrait pas être d'un autre. Donc, je serai seul aujourd'hui pour vous entretenir. J'espère que je serai à la hauteur. C'est difficile de, de jouer le rôle de Jenna parce que Jenna est irremplaçable. Jenna, c'est un cœur. C'est mon cœur. Accessoirement. Elle va sûrement écouter l'épisode après, donc ça lui fera sûrement plaisir que je lui fasse ce petit coucou-là. Alors, aujourd'hui, au menu de cet épisode, les choses que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Ici, on ne va pas parler de la vie de mariage en tant que telle. On va plus parler de l'organisation du mariage. Quelles sont les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer à organiser mon mariage? Ce sont des points qui ne sont pas forcément des choses que je ne savais pas. Il y a certaines choses que je savais, mais que je n'ai pas appliquées à ce moment-là ou dont je ne me rappelais pas à ce moment-là. Donc, c'est aussi une manière, en fait, à travers mon expérience, à travers notre expérience, de vous dire, en fait, de penser à ces choses-là lorsque vous commencerez à organiser votre mariage. Parce que ce sont des choses importantes qui, en apparence, ont l'air, je veux pas dire insignifiantes, mais ont l'air facultatives, en fait. Ces gens, on se dit, bah, c'est pas bien grave, ou on n'y pense simplement pas. Donc, je voulais revenir en tout cas sur mon expérience personnelle par rapport à cela, par rapport à l'organisation de mariage. Donc, normalement, j'étais censé aborder le volet du marié, enfin, le volet des hommes, et Jenna, le volet des femmes. Bon, on va voir au fur et à mesure si, vu qu'on a eu à discuter bien avant de tout ça, je sais à peu près ce qu'elle allait dire. Donc, si je peux revenir rapidement dessus, je le ferai. Ou on fera une deuxième partie de ce sujet-là, où c'est Jenna qui vous entretiendra plus en profondeur sur, en ce qui concerne les femmes. Voilà. Donc, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, vu que je suis seul, l'épisode risque d'être assez court. Avant de commencer, je voudrais parler un peu, qu'on discute un peu de quelque chose. Je suppose que la majorité des gens qui nous écoutent sur la série Maîtresse d'un homme marié, la saison 2. Pour ceux qui ne suivent pas la saison 2, sautez en fait, allez-y devant parce que je risque de dire des choses, je risque de spoiler en fait la série pour vous qui êtes encore en retard. Donc Maîtresse d'un homme marié, c'est une série sénégalaise. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une série sénégalaise qui est produite, je pense, par Maraudi TV, que nous, moi et Jenna, on suit depuis le début, en fait, depuis qu'ils ont commencé la première saison. Moi, j'ai découvert la série une fois en zappant sur 2S TV. C'était en Wolof, mais je ne sais pas pourquoi l'image m'a accroché. Donc, je suis allé sur YouTube, j'ai cherché, j'ai trouvé, et j'ai vu même que c'était sous-titré. Donc, à partir de cet instant-là, on a commencé à regarder Maîtresse d'un homme marié. C'est ce qui a marqué même la grossesse de Jenna, parce qu'au moment où on a commencé à regarder, il y avait déjà plein d'épisodes. Donc, on a binge-watché ça, on a regardé tous les épisodes en un coup. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. C'est une série qui nous a marqué. Donc, on est super content de voir qu'aujourd'hui, plein de personnes s'y intéressent. Plein de personnes félicitent. En fait, c'est le genre de projet qu'on aimerait voir qu'on aimerait voir plus souvent, en tout cas, sur le continent. Anyway, moi, en tout cas, il y a un truc qui me dérange dans Maîtresse d'un homme marié. Surtout depuis la saison 2. Maîtresse d'un homme marié fait passer les hommes pour des connards, en fait. La série fait passer les hommes pour des salauds, sincèrement. Non mais, entre nous, il y a quel homme actuellement qui se comporte bien dans la saison 2 ? Il y a quel homme ? J'ai l'impression qu'à un moment, au début, l'homme il est bien. Enfin, c'est ce que... Enfin, qu'on soit clair, c'est pas un procès d'intention que je suis en train de faire à la série. Hein. C'est mon ressenti personnel. C'est un avis personnel. C'est pas un reproche ou... Bon, c'est un reproche, si, mais c'est pas, comme j'ai dit, un procès d'intention. Je suis pas en train de dire que... Voilà, voilà. Moi, je pense, c'est ce que je ressens quand je regarde la série, c'est que tous les hommes sont présentés comme des connards, comme des salauds. C'est ça, en fait. Maintenant, je sais pas si c'est... c'est les hommes sénégalais qui sont tous comme ça. Ou c'est toute l'Afrique qui est indexée par cela. Mais il n'y a aucun homme digne de ce nom-là, en fait. Il n'y a aucun homme qui se comporte bien dans cette série. Depuis la saison 1, même, on va dire que il y avait quelques-uns, peut-être, qui se comportaient bien. Au début, il y avait l'amour chic-chic entre Cher et Lala. qui n'a pas duré du tout. Il y avait aussi Mustapha qui était éperdument amoureux de Raki. Donc Tafa, c'était le gars romantique à souhait, le gars sincère, le gars qui est prêt à aider sa femme et tout et tout. Je pense que c'est le seul hein, dans la saison. Et après ça, tous les hommes... Bon, ça, c'est sans compter les conquêtes de Djalika après. Hein. Je vais parler de Maki. Bon, Maki, c'était le seul, non? Ouais, je veux parler de Maki qui, sincèrement, moi, me sortait par les pores. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai pas aimé ce personnage-là, franchement. Je sais pas pourquoi. Enfin, je le trouvais un peu trop naïf, un peu trop... je sais pas, un peu trop simple, en fait, pour Djalika. Je sais pas, mais c'est pas un personnage que j'ai apprécié particulièrement. Il y a aucun homme digne de ce nom-là dans mes 13 ans mariés. Mustapha même qui était bien dans la saison 1, dans la saison 2 on a vu qu'il commence à se comporter comme il s'en fout en fait, je veux dire, il est concentré sur sa carrière, à part lui-même, enfin je sens que finalement il essaie de revenir, mais il y a un truc qui va plus entre les deux en fait, je sais pas si c'est le fait que c'est le lourd secret que les deux ont concernant Bakary Sagna qui fait que, enfin qui pèse sur eux ou je sais pas quoi, mais... Bref, je suis en train de m'égarer là. Donc, c'est ça, en fait. Donc, il n'y a aucun homme digne de ce nom, en fait, dans mes 13 hommes mariés. Waouh! Donc, les hommes sénégalais, là, c'est comme ça qu'ils sont. Ah, moi, je me dis à un moment... Hein, bon, actuellement, même celui peut-être qui est plus ou moins sur la bonne voie, c'est le nouveau gars de Mamie, là. J'ai oublié son nom. C'est Isiaka, non? Isiaka, un truc comme ça, là. Pour l'instant, en tout cas, il est bien, bien. Hein, mais je sens qu'il y a un truc pas très net qui va arriver devant avec... La meilleure amie de Dalanda qui semble être intéressée par lui. J'espère vraiment qu'il ne va pas faire quelque chose à Mami. J'espère vraiment qu'il... parce qu'elle a... Elle en a bavé hein, jusque-là. Donc j'espère vraiment que c'est... Il va faire partie des personnes qui vont relever un peu le niveau des hommes dans cette série-là. Le niveau de bienséance, le niveau de bonne foi des hommes dans cette série-là. J'espère vraiment. Ah oui, il y a aussi le GOAT. Le GOAT. Pagaye. Non, Pagaye, c'est mon gars. Pagaye, c'est mon gars. C'est mon gars. Yeah, Pagaye. Est-ce que, quand je vous dis l'amour, c'est vrai que c'est une série, hein, mais c'est des trucs qui arrivent. Hein. L'amour, ça te transforme. Regarde comment Merdiane est devenue. Hein? Moi, quand j'avais Merdiane au départ, même maquillée, pomponnée. Yo, elle a sorti tout le potentiel. Hein? Non, pas gay, c'est le GOAT. Mais je sens qu'il va lui faire du sale. Ah, décidément, cette série-là. Elle vous donne une mauvaise image des hommes. Hein? Je sais pas si c'est fait exprès, mais moi, c'est ce que je ressens. Moi, si déjà, je suis une femme qui... Je pense que all men are trash. Que moi je regarde la série, je vais dire, mais effectivement, c'est ce que je disais. Tous les hommes sont les mêmes. Il n'y a personne pour attraper l'autre, en fait. J'espère vraiment qu'après, on aura des hommes dignes de ce nom-là qui vont venir montrer la vraie valeur de l'homme sénégalais, de l'homme africain, qui est un homme qui ne trompe pas, qui n'est pas infidèle, un homme qui respecte sa femme. Parce qu'il est croyant, un homme qui chouchoute sa femme, un homme qui a l'écoute de sa femme, un homme qui ne s'amuse pas avec les sentiments, un homme pieux. C'est ça l'homme africain. C'est ce qu'est l'homme africain. C'est pas un débat. J'ai pas envie d'entendre ce que vous avez à dire. L'homme africain, c'est ça. Celui qui fait autre chose que ça, je sais pas c'est qui. En tout cas, l'homme africain, c'est ça. Bref. Ok, donc on a assez digressé comme ça. On s'est un peu égaré du chemin. Donc comme j'ai dit, on va revenir au sujet de cet épisode-là, qui est les choses que j'aurais aimé savoir avant d'organiser mon mariage. Donc il y a certains points que je vais aborder assez rapidement. J'espère que cette première partie ne vous a pas trop distrait. On revient dans les choses sérieuses maintenant. Bref, la première chose que j'aurais aimé savoir avant d'organiser mon mariage, que j'aurais aimé savoir assez tôt, c'est que peu importe le budget que tu vas allouer à ton mariage, quand je dis le budget, je parle pas de prévision, l'argent que tu gardes là, peu importe le budget que tu vas allouer à ton mariage, ça ne suffira pas. Ouais, ça ne suffira pas. Je le dis par expérience, hein, et je le dis parce qu'il y a plein de personnes qui me l'ont dit, et je suppose qu'ils me l'ont dit par expérience, donc c'est quelque chose qui est vrai. Peu importe le budget que tu vas allouer pour ton mariage, ça ne suffira pas. Et ça même là, si vous avez ça en tête bien avant, ça peut vous aider même déjà à prendre la décision. Moi, lorsque j'ai pris la décision d'épouser Jenny, de lancer les démarches en tout cas, le plus important pour moi à ce moment-là, c'était de savoir si, est-ce qu'après le mariage, j'ai ce qu'il faut pour m'occuper d'elle. Est-ce qu'après le mariage, j'ai ce qu'il faut pour m'occuper de nous deux, pour m'occuper d'une maison, pour m'occuper d'un foyer. Pour moi, c'était ça le plus important. Savoir combien j'allais dépenser dans un mariage, c'était vraiment pas le plus important pour moi. Franchement, dès l'instant où je me suis dit que, ok, je peux m'occuper je peux m'occuper d'une femme, je peux m'occuper d'un foyer, je peux même m'occuper d'un enfant, dès cet instant-là, moi, j'étais déjà convaincu. Mais après, c'est une réalité. Il faut bien un budget pour faire un mariage. Peu importe la façon dont tu imagines ton mariage, il faut bien qu'il y ait un budget. Mais attends, le budget que tu vas mettre de côté là, ça va pas suffire. Je ne suis pas en train de dire ça pour te décourager ou pour te dire que ça coûte cher. Non, c'est pas ça l'objectif en fait, c'est pas ça le but. Ça, je suis en train de te dire ça parce que tu es en train de retarder à cause de ton budget. Tu trouves que ce n'est pas assez. Peu importe ce que tu as là, ça ne va pas suffire. Le budget ne va pas suffire. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Il y a un minimum qui est requis. Il y a ce que la religion demande, il y a ce que vous voulez en tant que mari et femme, ce que vous voulez, c'est votre mariage, donc ce que vous voulez, et il y a ce que la famille veut, ce que les familles veulent. Donc il y a ces trois-là. Donc si vous voulez, vous avez des listes de ces trois-là, voilà ce que la religion demande, voilà ce que nous on veut, voilà ce que les familles veulent, si vous avez toutes ces options-là. Et en fonction de ça maintenant, là, vous essayez de voir, il y a forcément des choses qui sont prioritaires que d'autres. Il y a des choses qui sont importantes que d'autres. Il y a des choses même dont on peut s'en passer en fait. Vous essayez de faire le tri pour voir en fait qu'est-ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est à ces priorités-là que vous allez allouer en fait ce budget. Pour le reste là maintenant, s'il y a le reste du budget, vous allouez à ça. Là au moins, c'est pas très important, c'est pas très prioritaire. S'il y a des imprévus à ce niveau-là qui sont susceptibles de ne pas être réglés, au moins le truc ne sera pas vraiment gâché en fait. Surtout si c'est des choses qui ne vous tiennent pas à cœur. Les gens à qui ça tient à cœur, là, quand il y aura un prévu et puis ce sera chaud là, ils vont sortir avec le jet. Ça ment pas. Ça ment pas. Ils vont sortir avec le jet. C'est comme par exemple pour la danse. Moi à la base, moi je voulais pas de danse. Je me suis dit, c'est des dépenses, Joe. Déjà qu'on a trimé pour avoir ce qu'on a pour gérer ce qu'il y a à gérer là. Les autres bails là. Moi, franchement, je ne peux pas me casser la tête pour ça. Mais ces bails là ont été faits. Et ce n'est même pas des choses que la famille de Jenny demandait. C'est des choses que moi-même, ma famille voulait vraiment faire en fait. C'est des choses qu'ils voulaient vraiment faire parce que ça fait partie de la tradition. Et moi, je leur ai dit, hey, pour moi là, le plus important. Voilà. Et ce qui m'a aidé même, c'est que mon oncle qui était en charge des démarches, lui et moi, on a la même façon de penser. Donc, les choses que moi, je ne voulais pas trop me casser la tête pour ça, là. Lui-même, il se disait, Joe, laisse, elles vont gérer. Voilà, donc il y a un minimum qu'on apportait. Puis le reste, là, mon cher, débrouillez-vous. Hein. débrouillez-vous. Mais bon, ça, ça dépend aussi des familles. Sinon, il y aura toujours des imprévus. Ce qui m'emmène au deuxième point. Il y aura toujours des personnes qui vous viendront en aide dans l'organisation de votre mariage. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu, en tout cas pour ce que je sais, je n'ai jamais entendu qu'un mariage qui s'est fait sans qu'il y ait eu d'aide financière ou matérielle. C'est vrai qu'il ne faut pas compter sur les gens. Il ne faut pas compter sur les gens lorsque vous organisez votre mariage. Il ne faut surtout pas compter sur les gens. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va venir, lorsqu'il y aura un imprévu, qui va venir vous aider, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, qui va venir vous aider. Et il y a toujours quelque chose pour gérer les imprévus, mais généralement, en tout cas, si Allah a vraiment mis la baraka dans votre union, dans votre mariage, là, tout ce que tu as mis de côté pour les imprévus, là, à la fin du mariage, là, ce sera intact. Tu ne vas même pas toucher. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va vous aider financièrement, matériellement aussi, pareil. Souvent même, tu es assis, il y a quelqu'un qui t'appelle, quelqu'un même auquel tu ne penses pas. Les gens, ils t'appellent. Ah, c'est comment? J'ai appris que tu te maries. Ah, mais c'est bien, comme ci, comme ça. En tout cas, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me faire signe, tout et tout. Bon, d'ailleurs, même là, vous allez faire Walima, non? Tu n'as pas besoin de bâche, tu n'as pas besoin de chaise. Bon, ok, moi je t'offre ça. En fait, les gens qui se sont mariés, là, ils ont tellement de témoignages à faire sur ce truc-là. C'est-à-dire des choses pour lesquelles tu t'inquiétais. Mais au finish, tu as eu ça. Et tu as eu ça tellement facilement que c'est là que tu vois que, mon cher, Allah est fort. Allah est grand. Il ne manque pas à sa promesse. Wallahi, il ne manque pas à sa promesse. Si moi, je n'avais pas la foi, là, au sortir de mon mariage, là, j'allais avoir la foi. Incroyable. Bref, ce n'est pas un wajibi. Anyway, donc c'est ça en fait. Donc il y aura toujours des gens qui vont vous aider financièrement ou matériellement. J'aurais aimé savoir ça aussi. Ça allait moins me stresser. Le troisième point, si vous comptez épouser une femme qui n'est pas de chez vous, le mieux c'est de connaître certains us et coutumes de la famille. C'est très important. Parce que très souvent, dans des familles, il y a certaines attitudes que le futur marié doit avoir. Que ce soit des attitudes envers lui-même, en présence de la famille, que ce soit son attitude envers certains membres de la famille, qui sont plus importantes que d'autres dans les démarches de mariage, que tu es censé savoir en tant que futur marié. Parce que rares sont certes ces personnes-là qui seront indulgentes en se disant que « Ah, le gars, il vient d'ailleurs, donc c'est normal. » On peut te tenir rigueur pour tout. Donc, c'est important en fait de savoir les us et coutumes de la belle famille. Là, au moins, tu peux t'adapter. Ça t'évite les mauvaises surprises, ça t'évite les malentendus. Moi, dans mon cas, Jenny est d'origine malienne. Elle est maraca. Moi, je viens de Bandoukou. Les us et coutumes là, en tout cas concernant l'organisation de mariage, concernant le mariage lui-même là, c'est différent. Ces gens, c'est pas sur la même route même. c'est super différent. Donc, heureusement que je suis curieux, j'ai toujours voulu savoir en fait comment ça se passe chez elle. Donc, elle aussi, heureusement, elle connaissait, elle avait quand même une certaine connaissance non négligeable en fait de ces us et coutumes là. Donc, elle me briefait à chaque fois. La première fois où je suis allé me présenter officiellement à ses parents, frère, je stressais de ouf. Je me disais que non, il y a un super protocole qu'il fallait avoir et tout. Donc, je l'ai stressé aussi pour qu'elle me dise tout. Je voulais tellement faire, limite même, je voulais noter ça sur une feuille de papier pour à chaque fois regarder, pour voir, bon, comment ça, tu dois t'asseoir droit, ton dos doit former un angle de 35 degrés, angle obtus, je sais pas, angle aiguille, anyway. J'ai oublié, c'est quatrième. Donc, c'est très important. Parce que, imaginez-vous un seul instant, vous allez dans votre belle famille et vous avez une attitude qui correspond à leurs us et coutumes. Le fait que certains vont se dire que, ah, en fait, lui là, il n'est pas de chez nous, il est très loin de chez nous, mais il a eu cette attention là qui est la marque des grands chez nous. Il a eu cette attitude là qui est la marque des personnes respectables chez nous. C'est que c'est quelqu'un qui est bien, parce qu'au moins il a fait l'effort de chercher ça. Et au moins il s'est donné cette peine là en fait. Tu imagines un peu ce qu'ils vont penser de toi. C'est ça aussi. Tout ça, ça fait partie de l'image en fait que tu vas donner. Et quand c'est comme ça, dans l'organisation du mariage, ça t'aide. Parce qu'il y a des tantes là, elles seront fin de ta tête. Généralement, c'est les tantes qui gèrent les mariages chez nous. Je veux dire, généralement, dans le cercle mandingue, là, c'est les tantes qui gèrent le mariage. Tu imagines, tu t'es mis les tantes dans la poche. tu t'es mis les temps dans la poche, celles qui sont censées faire les listes des dépenses que ta famille a à faire. Mon cher, elles vont accélérer le bail parce qu'elles vont se dire, on a eu un beau, compétent, efficace. Donc, c'est quelque chose qu'il est impératif, en tout cas, de connaître. Si possible même, là, il faut connaître la descendance même. Si tu peux connaître la descendance même de ta femme, la lignée. Pardon, j'ai dit la descendance. Pardon. Voilà, c'est ce que je veux dire. La lignée, en fait, l'arbre généalogique. Si tu peux savoir ça, ça va t'aider toi aussi même à considérer, en fait, ta femme. À savoir que, en fait, ta femme, elle n'est pas n'importe qui, en fait. Et moi, Jenny, il y a son oncle. L'imam, il est imam adjoint, je crois, à la mosquée du Plateau, l'imam Sibi. Le jour où on allait lui rendre visite après le mariage, mon cher, il m'a adressé l'arbre généalogique. Il m'a dit que, la femme que tu vois là, il faut la prendre. Parce que si on te l'a donnée là-même, là, on t'a fait une grosse faveur. Sinon, c'est une reine qui est là, là. Si tu arrives en tout cas à connaître la lignée, c'est bon pour vous-même, pour toi-même. Parce que tu peux relativiser en fait dans certaines situations et te dire que c'est vrai que j'ai une reine chez moi. C'est pas reine dans le verbe, même dans la famille. C'est en Afrique, c'est le genre de choses qui compte en fait. Et même lorsque peut-être tu seras en train de discuter avec un membre de la belle famille, que ce soit le père même de la fille, ou tu peux ramener ça dans la discussion, ça donne les points. Et c'est important d'avoir les points dans la belle famille, hein. Donc en gros, j'aurais aimé savoir certaines choses des us et coutumes de la famille de Jenny avant de commencer à organiser le mariage. Ça m'aurait aidé beaucoup plus, ça m'aurait facilité beaucoup de choses. Ensuite, en quatrième point, j'aurais aimé savoir que le programme de mon mariage, le programme du mariage que j'ai établi, n'allait pas se passer comme prévu. J'aurais aimé savoir ça. Ça m'aurait évité beaucoup de stress inutile. C'est très rare, en fait, de voir un mariage avec le programme respecté à la lettre, respecté à l'heure. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui va clocher, en fait. Soit, ce sera en thème d'horaire, vous serez en retard. Soit, ce sera en termes de... C'est-à-dire un programme que vous allez être obligé soit d'annuler, soit de reporter parce qu'il y a quelque chose de plus important derrière, en fait. Le truc, c'est que ça dépend clairement pas de vous. À moins que vous ayez un organisateur de mariage excellent, qui est vraiment strict, qui va appliquer les choses telles qu'elles, malgré notre famille qu'on connaît, nos familles qu'on connaît, là, vous allez... Il y aura forcément ça, en fait. Il y aura forcément ça. Donc, c'est des trucs qui vous faut mettre dans la tête. Une fois que vous avez ça dans la tête, ça va vous permettre de désigner en fait les éléments du programme qui vous tiennent vraiment à cœur et de le dire à la personne qui est en charge. Vous dites dans tout le programme de mariage là, voilà les choses que j'ai vraiment envie de faire. Voilà les choses que à la fin de la journée là, faut qu'on ait fait forcément aujourd'hui. Là au moins là, il peut s'assurer, peu importe les décalages qu'il y a, il peut s'assurer en fait que le programme est respecté. Parce que le truc, c'est ça aussi. Il faut forcément avoir quelqu'un même qui fait respecter le programme. Parce que vous êtes en train de vous marier, vous n'avez pas ce temps-là. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît le programme, avec qui vous avez discuté du programme, et vous lui énoncez clairement que, moi, voilà tout programme qui est là. Moi, je veux, moi, en tout cas, dans tout ça, là, moi, je veux tant, moi, je veux tant, moi, je veux tant. Débrouille-toi, fais ça. Je débrouille-toi pour qu'on ait ça au moins. Sinon, à la fin de votre mariage, vous allez vous retrouver avec des regrets. J'aurais aimé savoir que le programme de mon mariage ne se passera pas comme prévu. Le dernier point, qui n'est pas vraiment important en fait, parce que c'est quelque chose que les gens ont envoyé pour quelqu'un qui veut faire les choses de façon religieuse. Genre sunna, c'est pas quelque chose qui est important. Mais nous, chez nous, on a été confrontés même à ce problème-là lors de l'organisation d'autres mariages. C'est qu'il y a apparemment des périodes qui ne sont pas propices à la célébration d'un mariage chez les Djoulas. Je pense que c'est le mois de Rajab, si je dis pas n'importe quoi. Moi, je pensais même que c'était un truc islamique. J'ai été assez surpris d'entendre ça, mais apparemment, c'est un truc de tradition, un truc des Djoulas, comme on dit. C'est les Djoulas qui disent ça, en fait. Qu'il y a des périodes où on ne se marie pas, où on ne doit pas se marier. Et je crois, si je dis vraiment pas n'importe quoi, je crois que c'est le mois de Rajab. Bon, elles ont une façon de dire ça en Djoula là. Moi je sais pas. C'est Jenny qui connaît ce genre de truc là. Moi je sais pas. Bon, ça aussi, je pense que ça fait un peu partie aussi des us et coutumes. C'est qu'il faut connaître en fait ces périodes là. Une fois que vous les connaissez, libre à vous d'accepter ou pas. Mais le truc, c'est que si la famille dit ça là, vous n'aurez pas le choix. Comme on dit chez nous là, le mariage religieux, le mariage coutumier là, c'est pour la famille. C'est la famille qui dicte son veto, en fait. Généralement, vous n'avez pas grand-chose à dire. Donc, si vous désignez une date et que la famille n'est pas d'accord, vous n'allez pas faire. Peu importe les raisons, que les raisons soient islamiques ou pas, que les raisons soient valables ou pas, s'ils disent qu'ils ne veulent pas, ça ne sera pas fait à cette date-là. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est comme ça. Donc c'est important en tout cas de savoir si ces périodes-là existent et c'est important aussi de les connaître. Ça vous aidera dans l'organisation de vos mariages, surtout au niveau de la proposition des dates. Vous pourrez discuter plus calmement avec une vue plus, plus panoramique en griffe du calendrier. Donc voilà, voilà les 5 points que je voulais aborder avec vous pour cet épisode. Les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant d'organiser mon mariage. J'espère que j'ai été assez clair tout le long de cet épisode. J'espère que ces points-là vous serviront. J'espère que ces points-là vont vous aider dans l'organisation de votre mariage. Donc, je vais résumer. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant d'organiser mon mariage? J'aurais aimé savoir que peu importe le budget que j'ai, le budget ne va jamais suffire. Ici même, je précise, même ceux même qui ont 30 millions de francs de budget, qui vont prendre les organisateurs, qui vont prendre les Reda, Fawaz et autres là, il y a forcément un imprévu qui va arriver. Il y a prévu, il y a un imprévu de 1 million qui va arriver, un imprévu de 2. La seule différence, c'est que si tu fais un mariage de 30 millions, imprévu là, ça ne va pas couper ton cœur. Mais en tout cas, il y a un imprévu qui va arriver. J'aurais aimé savoir aussi qu'il y aura toujours des bonnes personnes, il y aura toujours des personnes que Allah va inspirer pour vous aider. Il y aura toujours des personnes que Dieu va inspirer pour vous aider, que ce soit matériellement ou financièrement. Il y aura toujours des personnes bienveillantes. Troisième point, j'aurais aimé connaître un peu plus les us et coutumes de la famille de Jenny et aussi les us et coutumes de chez moi. Ce qui allait me faciliter beaucoup la tâche, ce qui allait me faire gagner encore beaucoup de points dans ma belle famille. J'avoue que j'en ai déjà pas mal, mais oui, je me la pète. Aussi, j'aurais aimé savoir qu'il est peu probable que mon mariage se passe comme prévu, comme le programme qu'on a établi. Et en dernier point, j'aurais aimé savoir qu'il y a des périodes où on ne se marie pas, qui ne sont pas propices à la célébration d'un mariage. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé avec ma seule voix d'homme du début jusqu'à la fin. J'espère que pour le prochain épisode, Jenny sera sur pied. Faites des doigts pour elle, pour qu'elle aille mieux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de hashtag With Love. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à enregistrer cet épisode-là. C'est vrai que j'étais seul, mais j'avais l'impression que vous étiez en face de moi. J'avais certains visages, ceux qui font des retours assez régulièrement. J'avais vos visages en tête, en fait. J'imaginais vos visages en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Donc, vraiment, merci beaucoup pour les retours. Merci beaucoup d'être avec nous chaque semaine. Pour ceux qui partagent, merci beaucoup, ça nous va vraiment droit au cœur. Ça prouve en tout cas que ce qu'on fait là, c'est bien, c'est utile. On se retrouve la semaine prochaine Inch'Allah avec Jenny pour le nouvel épisode. Prenez soin de vous, qu'Allah nous préserve. Salam alaikum, bye bye.